pas manquer d'affluer. J'ai le plaisir et l'honneur d'ouvrir la seconde séance de ce colloque. En donnant tout de suite la parole à Charles Grivert, professeur à l'université de Mannheim, qui a traversé depuis bien des années de long et en large Zola, sans en être revenu. Depuis sa production, il y revient, je veux dire, tant que c'est pas, c'est depuis sa production de l'intérêt romanesque, et qui a toujours des titres à la fois énigmatiques et alléchants. Comment voit-on illustration, non-illustration ? En s'excusant, en vous priant tout d'abord d'excuser les défaillances techniques, il faudra que vous vous représentiez les illustrations qu'il comptait vous soumettre.
Je remercie Claude Duchet. Et c'est bien sûr un grand plaisir pour moi d'être ici. Et je crois que d'autant plus que Zola représente à la fois, mais je pense que je ne suis pas le seul, une sorte de point de fuite de mon intérêt. Il est à la fois, bien sûr, trop présent et bien sûr, pour cela même, trop absent, trop massif, trop intempestif. Et c'est aussi au nom de cette trop large présence que je voudrais l'interroger par un biais, par le biais qui nous rassemble ici, celui de sa supposée illustration. Je poserai la question que posait Virilio dans un texte récent qui s'appelle « Le bloc image » et c'est déjà un programme, vous voyez. Il posait cette question pour dire que c'est pour répondre non, c'était une question donc rhétorique. Il disait « Est-ce qu'une image est jamais seule ?» Eh bien non. Alors, j'aimerais étudier l'accompagnement de l'image tout autant, bien sûr, que dans l'autre sens, l'accompagnement du texte par lui-même et par des appendices ou des greffes ou des prothèses iconiques et de plusieurs espèces. J'essayerai, si vous le permettez, mais je m'arrêterai avant d'avoir pu le terminer, bien sûr, j'essayerai de dénouer un nœud qu'il faut d'abord, évidemment, faire ou bien montrer, et qui pourrait être formulé de la façon suivante. Un texte narratif qui est constitué comme un faire-voir soumis ou bien à faire voir, ou bien se trouve soumis à une visualisation mentale, se trouve soumis en plus à un propos manifeste, plus ou moins théorique, préfaciel souvent, critique, enfin peu importe le nom, en tout cas doctrinaire, qui vient contrarier, mais il faudrait voir si c'est vraiment contrarié, ou freiner, ou déplacer son propos. Si vous voulez, sa visualisation interne. On a déjà donc, de la part de l'auteur, un double discours. Dans le cas de Zola, c'est particulièrement sensible, bien sûr. Est-ce qu'il faut dire contradiction ? C'est ce que nous verrons. Cette contradiction potentielle se trouve renforcée, mais est-ce que c'est seulement renforcé ? Par la mise en image du roman. Et bien sûr, à partir du moment où ce roman se répand, devient chose publique, c'est une chose qui, justement, m'intéresse moi particulièrement, le seuil à partir duquel un roman ou un récit devient discours social, et c'est le cas de Zola, pas seulement de Zola, bien sûr, car tout ce que nous avons dit déjà ce matin, tout ce que nous dirons souvent dans ces journées, je crois bien, pourra s'appliquer à maintes autres best-sellers du roman du 19e siècle, évidemment. Donc, je suis conscient que ce que je vais dire, quelquefois, aura de la pertinence zolienne et quelquefois tombera, enfin, dans le large océan des choses que nous avons à penser pour arriver à lui. Je m'en excuse, évidemment, d'avance. Bon. La mise en image, dans ce nœud ou dans cette dialectique que j'essaye de placer pour commencer, la mise en image vient se substituer, du moins je le crois, à la mise en en image illustrative, pour être clair, vient se substituer à la visualisation, je dirais, autogène, c'est-à-dire celle qui émane mentalement du texte lui-même. Je m'excuse, ce micro est évidemment trop petit pour moi et je ne veux pas me mettre à genoux devant vous pour prononcer au bon niveau. Alors, c'est pas très commode. Excusez-moi. Cette mise en image vient se substituer donc à une visualisation interne limitée, évidemment, qui est déjà déniée par ce que l'on sait de l'auteur et tout le paratexte. Ah, ça c'est très gentil. Il faudra un gros dictionnaire, peut-être. Merci. D'accord. Je vais essayer de ne pas renverser l'ensemble de cette construction. Bien sûr.
Et tu parles sur un zone photographe.
Oui, oui. Une idée qui me vient en passant et qui peut-être que je soumets à discussion, je crois, ou je pose, que la mise en histoire, en image du discours littéraire, du roman principalement, du genre narratif en général, dès la naissance de la photographie, puis plus tard dès celle du cinématographe, est pour ainsi dire programmée dans le texte romanesque lui-même. Je dirais peut-être bien que nous avons affaire à un texte romanesque qui prévoit déjà sa propre mise en image. Et là, il faudrait évidemment étudier de façon très technique, on ne peut pas faire ça ici, bien sûr, comment les images adviennent au texte à partir des années 30, par le support publicitaire, par le support journalistique, par la gravure, bien entendu, et par la séquentialité du texte, la fragmentation, c'est pas une fragmentation, mais ce découpage du texte que nous connaissons, qui le propose en séquence où une image est toujours associée à un morceau de texte, en somme, comme un plan ou comme une série de plans auxquels le cinéma nous a habitués. Alors on pourrait dire, l'étude du rapport au texte de ces images illustratives, ou inversement du texte à ces images illustratives, doit passer probablement par l'étude très précise, d'une part, des inventions et des aléas de l'invention photographique. Il faut savoir que la photographie ne prévoit jamais une image, mais toujours une série d'images, par exemple. La chose est encore plus visible pour ce qui en est du cinématographe, vous voyez. Et comme si, on pourrait dire, je garde ça comme une hypothèse fragile, bien entendu, comme si le texte narratif à publier dans les journaux nécessairement à agrémenter d'images, parce qu'autrement ça ne se lit pas, c'est insupportable. Tout le monde sait très bien qu'il faut d'abord lire les images pour avoir quelques chances d'avoir envie de lire autre chose, même du Zola, si l'on n'est pas aussi civilisé que nous ici, bien sûr. Alors vous voyez, tout ceci serait à comprendre, à verser au compte d'un intérêt que l'écriture populaire ou publique, disons, pour prendre un mot plus neutre, qu'il y a déjà une attente, qu'il y a déjà une écoute, qu'il y a déjà une formation qui fait en sorte que cette image est précisément là, qui est comme son émanation. Certainement pas une émanation qu'il faut qu'on mette versée au compte de l'analogie ou du mimétisme, bien entendu. Alors j'ai trois parties, je vais essayer, mais je n'arriverai jamais au bout, ça va de soi. Un discours n'est pas fait pour arriver à ses fins, surtout pas le mien, vous en doutez bien. Je crois que la chose la plus intéressante à creuser un instant, c'est d'essayer de cerner, rapidement bien sûr, ce qu'il en est d'un texte d'image, ou plutôt de l'imagination mentale du texte. Si cela existe et si l'on peut le saisir. Alors, comme je ne suis pas un pragmaticien ou un psychologue expérimental, je n'ai pas d'instrument, j'essaie seulement de penser. Mes réflexions seront très approximatives, bien sûr. Mais enfin, je voudrais vous livrer quelques réflexions qui nous aideront par la suite, où j'étudierai un fragment du texte de Zola, un tout petit, quelques éléments pour dire quelque chose, et ensuite nous essayerons de comparer cette donnée avec quelques images élémentaires que vous avez en tête, mais qui vous seront représentées par cet appareil au moment venu. Première partie donc. Qu'en est-il de l'imagination, ou bien de l'imaginalisation, si on peut oser ça, du texte? Je pose radicalement, comme ça, pour voir ce que ça donne, et je suis intéressé à vos réactions, bien sûr. Je poserai à peu près qu'on ne lit qu'en image, qu'image en tête, en quelque sorte, adaptativement, vous voyez. qu'il s'agit là, à chaque élément moment de lecture, mais sans doute n'est-ce pas régulier, sans doute n'est-ce pas toujours de la même façon, il y a des humeurs, il y a des tendances, il y a des particularités, bien sûr, il y a une visualisation esquissée qui aurait lieu, une pente à voir, certes, d'un côté, un flot d'images qui est généré, mais d'images qui ne sont pas finies, je m'empresse de le dire, qui sont simplement amorcées, qui sont probablement floues, incomplètes, à peu près, bien sûr, une idée, ça pourrait nous en donner, le flot onirique. Tant que vous ne vous arrêtez pas, vous ne voyez rien, à vrai dire. Mais si vous vous arrêtez, alors vous vous fixez, vous faites un arrêt sur image, comme on dit, et vous distinguez, de telle sorte que les récits de rêve sont toujours trompeurs par rapport à ce flou constitutif de la, disons, du mouvement de l'œil onirique. Je propose de penser à peu près les choses comme cela quand il s'agit de textes, de telle sorte qu'on pourrait dire, c'est une idée comme ça qui me vient en vous en parlant, de telle sorte qu'on pourrait dire, peut-être que les images, aussi mauvaises soient-elles, et peut-être vaut-il mieux qu'elles soient mauvaises, c'est-à-dire tout simplement frustes, grossières, kitsch, forment-elles précisément ces arrêts sur image dont le texte a besoin pour que nous en ayons le plus grand plaisir. Le désavantage d'un texte, c'est toujours, bien sûr, qu'il est long, qu'il est lent. Vous savez comment c'est, n'est-ce pas, même pour se jeter dans le texte d'un auteur favori comme est celui d'Émile Zola, n'est-ce pas, il faut y aller, il faut décider d'avoir du temps. Et le frein que constitue l'image, ce coup d'arrêt, est peut-être le moyen de regarder en lui, même, encore une fois, si cette image est médiocre. Sur ce point, je laisserai tout ce que je pourrais dire de côté, parce que c'est en effet un point tout à fait délicat et intéressant, je crois. En tout cas, pour revenir à mon propos, il faut parler de la vision des lecteurs, d'une vision entre guillemets, puisqu'elle n'est pas réalisée, qu'elle s'accroche par fragments à ce que le texte, quelquefois très typographiquement, quelquefois, mais alors là il faudrait encore distinguer, très iconiquement, lui propose. Bon, cette visualisation succincte, évanescente, floue, n'est-ce pas, j'insiste, parce qu'autrement vous allez me dire, oui, mais je ne vois rien quand je lis, et moi non plus, n'ayez pas peur, contient quelque chose comme une interprétation, c'est-à-dire qu'elle est déjà poussée dans un sens, de même qu'un récit onirique que vous faites au petit déjeuner entre la première tasse et la seconde, de même que ce récit que vous faites du rêve nocturne vous force et vous pousse, bien entendu, à l'identification, à la rationalisation, bien sûr. Cette interprétation, évidemment, et c'est le troisième élément du petit bâtiment théorique que je propose, je m'arrête très vite, n'ayez pas peur, est évidemment tempérée par les images en tant que telles, c'est-à-dire qui ont été voulues comme temps d'arrêt de l'éditeur, fonctionnent comme vous, comme, disons, un support de températion, je dirais, un support, une limite aussi, une limitation à votre interprétation. La signification n'est plus flottante, mais elle vient s'articuler, elle vient s'appuyer, elle vient se médiatiser, mais de façon, bien entendu, extrêmement floue, puisque vous êtes toujours le maître du livre, car vous êtes le maître des pages. Vous pouvez tourner, vous n'avez pas tourné. Vous avez le temps, vous n'avez pas le temps. Je fais remarquer que ce renforcement de l'activité lectrice imaginale, je ne dis pas imaginaire, hein, ça c'est encore un autre chapitre, mais imaginale, c'est-à-dire celle qui consiste à se laisser aller à faire de l'image, en termes fort flous, bien sûr, que cette activité de lecture, bien entendu, d'un côté, peut renforcer un texte que l'on connaît, que l'on reconnaît, que l'on identifie, puisqu'il porte un nom, etc., mais d'autre part, qu'elles tendent, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, qu'elles tendent aussi, ces images illustratives, à en nier l'action. Vous voyez, à en nier l'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas simplement une illustration illustrative plus ou moins menteuse, ou bien plus ou moins approximative, mais on a probablement, ça serait un peu une thèse que je placerais ici, une illustration qui tendrait à démentir le propos de la mentalisation, etc. Je vais tourner quelques pages et je vous proposerai de regarder un fragment de texte, par économie, bien sûr, de temps. Je voudrais voir comment ça agit mentalement à la représentation de la lecture comme vision, si je m'exprime de façon un peu contournée, puisque il y a voir et voir, et il s'agit d'un voir qui n'est pas vu et dont aucun support ne vient aider apparemment, pour commencer, l'existence. Donc je voudrais toucher quelques fragments de texte de Zola pour voir comment ça voit dans ces textes, comme texte, n'est-ce pas ? Alors j'ai choisi le début de l'œuvre. Je fais remarquer que je laisse de côté, encore par économie, parce qu'on ne va pas tout faire, tout ce que de très estimés collègues, d'ailleurs très souvent ici présents, ont fait dans la matière. Par exemple, je passerai tranquillement, à pieds joints, par-dessus toute l'activité métaphorique, toutes les procédures de focalisation, toute la remontée des jeux d'analogie dont nous avons, dans la recherche, eu ces derniers temps encore de bons et de très intéressants exemples. Je laisse cela de côté, non pas que je le méprise, mais parce que je ne peux pas tout faire. Je voudrais plutôt centrer l'intérêt sur une stratégie zolienne que j'exprimais de la façon suivante, tout d'abord de façon théorique. Le texte zolien lui-même, indépendamment pour commencer donc de l'image, comprenez bien ça, fait image, c'est-à-dire qu'il se constitue comme une image à venir. De multiples façons, il se présente. Et nous allons vérifier ceci, donc, tout de suite. Il se présente comme une émanation de l'œil. Alors, maintenant, de quel œil ? Alors, je sais que M. Mitran a dit plusieurs fois, et il n'est pas le seul, qu'il s'agissait, et je sais que quelques collègues vont encore en parler tout à l'heure, je me réjouis, ce serait un œil de paysagiste, un œil de professionnel, un œil, en fait, de peintre qu'il aurait... Enfin, regard de peintre qu'il aurait assimilé au contact fréquent avec ses amis peintres, justement. Je ne sais pas, je vous laisse juger. J'aurais tendance, enfin, d'autres parmi nous tentent et voudraient aussi penser que le texte zolien se présente plutôt avec l'œil, enfin, que Zola se présente, écrivain, plutôt avec l'œil du photographe. Voit-il comme un peintre ? Voit-il comme un photographe ? Moi, je répondrais, mais non, il voit de l'œil d'un écrivain. Hein, ça, faut bien être conscient de ça. Mais il utilise des trucs, parce que ce n'est pas quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il utilise des trucs qui ont lieu ou qui ont été expérimentés ailleurs. Et je vais vous faire une petite démonstration, donc, sur le premier chapitre de l'œuvre. Vous me permettrez 5 minutes dans le détail, c'est intéressant. Je tiens ce chapitre, que je trouve personnellement extraordinaire, mais je ne suis pas le seul, je le sais bien, je ne fais que rassembler des idées que beaucoup de nous avons. Et je vous rappelle la situation. Nous sommes en situation d'orage. C'est classique. Quand il s'agit, dans le roman le plus populaire, de faire rencontrer un homme et une femme, et faire un petit peu de battement dans les sphères célestes est la meilleure des techniques. Ça marche dans tous les coups. Ici, chose intéressante, non seulement l'orage est pris parce qu'il mouille, ça nous permettra un déshabillage plus tard, mais surtout, l'orage est pris parce qu'il permet de faire fulgurer la lumière en une série d'instantanés photographiques, de flashs, grâce auxquels la scène va pouvoir être découpée tranquillement. C'est malheureusement un petit peu systématique, c'est pour ça qu'on comprend tout de suite, mais enfin, en scène, qui seront tantôt éclairées, tantôt, évidemment, plongées dans l'obscurité. Et tout l'intérêt du texte est bien entendu, et je crois que je vais pouvoir le prouver sans grande difficulté après avoir dit ça, au passage de l'ombre et de la lumière, sauf à dire que ce passage doit être instantané, et qu'il a bien sûr des conséquences, enfin, intéressantes, je trouve. Donc, premier paragraphe, je rappelle, puis quand on aura bien vu la chose, je quitterai le terrain, je n'ai pas tout le temps disponible, mais ça sera une séance de séminaire, vous voyez, justement pour montrer comment, de phrase en phrase, Zola exploite cette façon de spotter, si j'ose dire, le texte. Comme si donc le récit, vous allez voir tout de suite, comme si le récit était à la traîne ou bien au service d'un appareillage photographique. Alors je sais bien que Zola, on lui en a fait crédit, mais enfin, ce n'est pas vrai, je pense, a inventé, ou du moins s'est intéressé à l'instantané photographique. Et bien là, nous voyons que... Mais ce n'est pas un photographe qui écrit, c'est un peintre qui se souvient, enfin, des alternances de l'œil et de la lumière, de l'œil et de la fermeture de cet œil pour un propos qui n'est évidemment pas photographique. La première intervention de cet orage produit bien sûr l'obscurité. On n'y voit rien. Alors, on arrive dans le noir. Arriver dans le noir dans un roman, c'est bien sûr impétré dans une caméra obscura, en aveugle, et Claude arrive en effet en tâtonnant à travers la ville, il redécouvre les abords de sa maison. Il est dit d'ailleurs qu'il intervient en aveugle, et c'est en aveugle qu'il rencontrera celle qui sera, enfin, la femme qu'il attendait, pour de multiples raisons, comme vous savez. Donc, ce qui s'apprête à surgir dans le texte est issu d'un acte d'aveuglement, est issu de son aveuglement. Il faut fermer les yeux pour voir, c'est-à-dire pour tomber juste sur le motif même qui sera ce qui complétera, comme vous le savez, le tableau du peintre. C'est le premier éclair, c'est le premier moment de l'orage. Bien sûr, le deuxième paragraphe fait intervenir un éclair. Une fois que vous aurez compris l'alternance, nous allons pouvoir accélérer. Ce n'est pas le cas chez Zola, qui suit la scène d'éclair en éclair de façon systématique. De façon intéressante, les lieux ne paraissent que dans les temps de l'éclairage fuligineux. Et cet éclairage fait de ce lieu un décor, de ce lieu un tableau, bien sûr. De même, la rencontre en aveugle lui fait apercevoir, mais aussitôt dérobe, celle qu'il va tâter en aveugle sous le pas de sa porte. Si l'on passe maintenant à une séquence un peu plus loin du récit, vous apercevez que le dialogue permute les phrases qui sont dites « qui êtes-vous, je suis, moi je » des deux personnages avec les coups de lumière ou bien les coups d'obscurité produits par la scansion fulgurique. Alors, on n'a donc jamais une vision complète, mais toujours une vision instantanée, une vision donc qui ouvre à une interrogation, laquelle interrogation doit être suspendue puisque rien dans l'acte de vision peut la contenter. De telle sorte que les personnages, non seulement sont des aveugles, mais des aveugles qui se regardent les yeux dilatés à chaque coup d'orage. Systole, diastole de la représentation oculaire. Le récit donc dévoile la pensée de dessous le voile qu'il institue. Je saute un peu plus loin dans le premier chapitre pour vous rappeler ce qui se passe quand les deux personnages sont arrivés enfin dans l'atelier. Il est tard, ils sont fatigués, Claude ne sait pas très bien faire que de cette femme qui se trouve subitement chez lui. Elle a quelques craintes à nourrir et il lui offre son lit tout en lui oubliant de lui préciser qu'il ne va pas s'y mettre avec elle. Alors avec un quiproquo qui va, toujours scandé par l'orage, produire une chose intéressante. Claude va avancer pour ne plus la voir, même lors de la scansion, et après il soufflera la bougie, il avancera, comme vous le savez, un paravent. Il parlera donc au-delà de ce paravent, et couché chacun dans le silence de la pudeur et de la modestie, chacun du côté du paravent, ils vont l'une dormir, sans doute, on n'a pas ces paroles, et puis Claude, Claude, il va lui halluciner. Je cite brièvement, « Il suivait au fond du brasillement des étoiles, des nudités amoureuses de femmes, toute la chair vivante de la femme qu'il adorait. » Vous voyez donc que ce blanc, ou que cet objet X qu'il ne peut pas voir, puisqu'il a soufflé la bougie, il a mis du paravent, et en plus il est correct, est ce qui est à la fois proposé par le paravent, par la nuit, par l'instant photographique, et dérobé, bien sûr, par lui. Je saute plus loin. Après les affolements voyeuristes du matin, qui sont connus, je vous rappelle ce qui se passe. Il ne tient plus en place et il finit par regarder par-dessus le paravent et il voit qui ? Eh bien, il voit ce qui lui manque à son tableau. Précisément, la forme, la position, l'objet, le X qui... Le texte est tout à fait précis, ce qui manque au tableau, c'est-à-dire la tache blanche de son tableau. C'est la nuit qu'il lui a proposée. C'est un instant photographique qui lui permet de le susciter. Le soleil vient frapper cette poitrine et ce visage, comme vous savez, et immédiatement son regard, notez-le, se professionnalise. Jusqu'à présent, ce n'était qu'un homme, Zola a bien insisté là-dessus, et immédiatement, il se précipite non pas sur la demoiselle, mais sur du papier, sur le carton précisément, pour en faire l'esquisse. Il est donc confronté avec un voir qui lui suggère qui est le morceau du puzzle qui manque à sa peinture, peinture qui est continuellement retourné contre le mur, comme vous le savez, pendant cette scène. Je pourrais continuer. L'intéressant, je crois, est de voir comment, de ces manipulations détaillées, je regrette encore une fois qu'on ne puisse pas dans le détail entrer maintenant, comment le texte fait arriver d'une part de l'image. Mais il ne la fait pas voir, cette image qu'il présente. L'image même est une vue textuelle amenée par le récit comme ce qui serait la nécessité d'un réel. Mais c'est un réel qui n'est lui-même sensible et compréhensible et admissible pour le peintre, c'est-à-dire nous, par-dessus lui, comme un geste pictural, un geste artificiel et pas du tout le projet d'un voir objectal. Vous voyez où je veux peut-être en venir. Le texte fournit en quelque sorte, non pas simplement une image de l'imaginal, mais il construit des procédures telles qu'à la fois il les suggère, mais les résorbe. Si nous en avions le temps, nous pourrions suivre à travers toute la série des œuvres de Zola, cela a été fait aussi, d'analogues, de manipulations. D'analogues techniques qui consistent aussi bien à montrer qu'à retenir. Il y a un article assez récent, je crois, de M. Brooks sur l'affaire de Nana. Je ne partage pas tout à fait l'identification qu'il fait de ce X à voir au sexe, mais toujours est-il qu'il faut bien reconnaître que le récit est là pour construire un voir comme du désirable qu'il résorbe au fur et à mesure. Maintenant, je prends. Encore 5 minutes quand même.
Ouais.
5. Mais ça ira. Je prendrai maintenant, et je vous demanderai de collaborer à ma petite démonstration, je prendrai maintenant des illustrations. Par exemple, celle qui figure dans le rêve de Zola ou bien dans dans Thérèse Raquin, puisque ce sont les textes que j'ai à disposition, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Vous les rappelez à vous, je ne peux pas atteindre à la technicité ici dans ce propos. Ces images, il faudrait d'abord reconnaître de près, et ça veut dire un propos technique, leur fonction. Alors, on pourrait faire un tableau des composants de l'image illustrative dans le texte. Ce tableau ne doit pas simplement, je pense, souligner les identifications, souligner les localisations, souligner toute la dramaturgie profonde, la scénographie. On ne doit pas non plus se contenter de remarquer le rapport au texte en termes de dénotation. On ne doit pas non plus... disons, les fixé sur leur capacité décorative qui pourtant existe et qui est très souvent tenue sous silence. C'est dommage parce que l'image fonctionne comme un trou dans le texte, comme un intermède, comme un bien-être qui nous fait respirer, mais ceci, nous devrions le voir de près. Je me bornerais à plutôt voir une chose, c'est que l'image, en appelant à vous donc ce que l'illustration du rêve ou bien de Thérèse, dans les différentes éditions qu'on peut avoir à disposition, par exemple celle de la Select Collection ou bien celle de chez Marpon, la grande illustrée, avec les images de Schwab, on peut s'apercevoir que l'image construit une alternance heureuse, je dirais, délassante, à l'intérieur des motifs du voir. On a un événement, puis un personnage, puis une action, puis un lieu, ou bien dans un ordre différent. Puis à nouveau un événement, puis à nouveau un personnage, puis à nouveau un événement, puis à nouveau un personnage, puis à nouveau un lieu. Et puis on a une vue de loin, une vue de près, une vue de gauche, une vue de droite. On a une variation considérable, binaire très souvent, le sombre et le clair, le haut et le bas, de l'image. Ceci ne doit pas, doit être pris aussi au sérieux que les procédures d'identification qu'elle réalise. Elle vient en ceci, cette image contrastive, elle vient travailler une matière textuelle qui elle-même élabore sa propre vision et en produit une certaine rétention. Elle constitue, si on interroge cette dimension, elle constitue le texte en agrément aussi. Il ne faudrait quand même pas oublier qu'un texte illustré est un texte plus aimable à la prise, et à moins que je sois resté plus particulièrement enfant que vous tous, c'est du moins mon opinion. Il me semble que, d'autre part, et c'est une chose, je crois, aussi intéressante à noter, que l'image illustrative constitue le texte lui-même comme une masse en mouvement. Elle le cinématographise en quelque sorte, elle l'accélère par la place qu'elle occupe à l'intérieur des colonnes, à l'intérieur du noir ou du gris ou du blanc qui le constitue. Elle le fixe, elle en constitue la butée, l'arrêt quelquefois tout à fait incompréhensible puisqu'elle joue continuellement sur un déphasé par la prospection ou la rétrospection qu'elle propose, puisqu'elle est retardante ou précipitative, si l'on veut. Elle imprime, de toutes les façons, je laisse le détail, bien entendu, nous n'avons jamais le temps, mais elle imprime à cette masse amorphe qui sont des lettres, des lettres ancrées, noires, figées, foncées dans la matière du papier, elle lui imprime une allure, et il faut le dire, une allure inédite ou insoupçonné. Vous voyez que ces images sont loin d'être purement dénotatives, mais elles constituent avec le texte, non pas dans le parallèle au texte, un mode de publicité auquel je faisais allusion pour commencer. Je voudrais, dans les quelques secondes qui me restent, creuser juste quelques points de ces remarques-là. Vous voyez, je ne pense pas que l'on doive penser l'illustration comme une illustration. Elle n'illustre rien, elle n'illustre pas, même si nous avons toujours des moyens de reconnaissance. Mais la reconnaissance n'est là que pour ne pas freiner le mouvement imprimé au texte. D'ailleurs, comment reconnaître une Thérèse ou une Nana, même la cambrure dont nous avons parlé ce matin, me paraissait somme toute relativement généralisée et pas forcément, identificatoire de Nana elle-même, bien sûr. Je crois que là, beaucoup de travail serait à faire pour constituer une iconothèque, mais une iconothèque des archétypes qui sont dans la tête, comme des sortes d'universaux qui viennent automatiquement nourrir la vision du lecteur quand il lit, aussi bien que la vision du graveur quand il essaye d'illustrer illusoirement le texte en question. Il y aurait là un travail gigantesque à faire pour les siècles futurs. Je ne suis pas sûr de pouvoir terminer ce travail, bien sûr. Il sera intéressant de voir les fragments d'images qui viennent à nos esprits, mais dans nos têtes enfoncées si profondément qu'un mot suffit à les suggérer, mais bien entendu ne parvient pas à les accomplir. Vous voyez, ces images, je conclue, ces images sont confirmatives. Je vois ce que je lis. Ces images sont aussi infirmatives. Je ne vois pas plus. Je ne vois pas encore ce que je lis. Et ces images sont aussi suspensives. Je cesse de lire pour voir comment. Je ne lis pas plus ou pas encore. Ces images sont détaillantes, c'est-à-dire qu'elles viennent se greffer non pas sur tout le texte, mais sur du rien du texte, ou sur un élément du texte, sur une joue, sur une fossette, sur une je sais pas quoi, n'est-ce pas, sur des éléments de décor qu'à prime abord on aurait peut-être souhaité ne pas voir, ou bien qui nous auraient échappé. Je vois en grand ou en petit, c'est-à-dire je ne vois jamais au niveau de la vision tempérée que le texte, Zolien, c'est un auteur, il écrit, veut suggérer, le registre même où il se situe n'est pas celui, jamais celui, où l'image peut nous conduire. On a eu des beaux exemples ce matin avec la caricature, le texte de Zolien n'est pas caricatural, par conséquent, le mode même de l'image de Gilles ne va pas avec cela. Mais bien entendu, on peut tout supporter, on peut tout oublier, on peut tout voir, ça ne fait rien. Ces images tournent à la caricature et donc démentent. C'est une rançon de l'obligation où elles sont de construire le texte en reconnaissabilité. Je ne peux supporter une image que dans la mesure où elle est, pour moi, du moins l'éditeur, et peut-être son auteur aussi, que si elle s'applique. Je tiens pour acquis que toute image s'applique pourvu qu'on le fasse soi-même, n'est-ce pas ? C'est une limite du genre. Et tout le monde sait que les mêmes images évoluent de texte en texte, de roman en roman, et toutes les nanas ressemblent bien sûr à toutes les nanas, comme tout le monde sait. Deux derniers détails qui sont intéressants, je trouve. D'abord, trois détails, si vous permettez. D'abord, le caractère instantané de l'image. C'est bien, elle se présente dans ce caractère carré, mais c'est pas toujours le cas. Elle est quelquefois... Elle affecte quelquefois la forme d'un trou de serrure, curieusement, ou bien d'un petit flash, d'un petit spot, d'un petit fragment, d'un petit morceau de puzzle. Elle vient habiter le texte et elle figure le point de recentrement du texte autour d'elle et autour de cet instantané. Ces instantanés sont toujours, presque toujours, pas toujours, je sais bien, toujours violents. Il est rare que l'image soit bénigne. C'est pour ça que je posais la question ce matin à notre collègue. Généralement, pour être public, l'image doit centrer sur les moments dramatiques et c'est toujours le couteau qu'on lève plutôt que la tasse de thé que l'on tend. Mais je sais que le couteau impose la tasse de thé et l'inverse est bien sûr vrai. Cette image est supplémentaire aussi. Elle arrive en prime. Elle n'est pas obligatoire. L'auteur peut très bien n'avoir rien à voir avec cela, ni le lecteur, mais elle constitue comme un bis de lecture, comme quelque chose qui est satisfactoire en plus de la lecture. Elle est donc une greffe qui accroît la désirabilité du texte. Ça prime. Et enfin, je m'arrête, elle ouvre le texte. Elle y introduit une part d'énigmatisme car elle ne sera jamais résolue par lui. Évidemment, on ne reconnaîtra jamais dans le texte l'équivalent de ce que nous lisons en image, mais bien entendu, les vers sont en vrai. Puisqu'il y a cette image, je ne reconnaîtrai jamais mon propre texte dans cette image, enfin, le texte que je suis en train de lire dans cette image. L'image illustrative est donc non illustrative et elle introduit un instant ou un instantané d'indécidabilité à l'intérieur de l'image, bien sûr. À l'intérieur du texte et à l'intérieur de ce magma, de ce continuum, de ce flou, pour lequel je plaide si volontiers en vous remerciant de votre attention.
Bon, je remercie en votre nom à tous Charles Grivel pour cet exposé foisonnant qui... nous convie à plein de séances de séminaires. On essaiera d'en donner un petit condensé dans la période de questions qui va suivre. Je voulais bien le second exposé que j'ai envisagé de grouper. dans la mesure où Patrick Badi, qui va parler maintenant, a été un peu sollicité par Charles Grivel, puisque Patrick Badi, comme vous le savez, est spécialiste de l'œuvre et que nous allons nous retrouver à l'œuvre grâce à Patrick Badi. Et j'ai l'impression que, c'est peut-être une fausse impression, qu'entre certaines des suggestions de Charles Grivel et cette théorie du chaos, il y a quelques affinités. Donc je cède la parole à Patrick Badi. Qui nous vient de l'université du Tennessee, j'aurais dû le préciser.